Lors de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies, rappelez-vous, le 18 septembre 2012, le Zimbabwéen, le président Robert Mugabe, avait dénoncé l'arrogance, l'unilatéralisme et l'hégémonie militaire de l'OTAN qu'il avait qualifié de groupe terroriste. En 2011, deux semaines avant le meurtre de Muammar Kadhafi, le guide de la révolution libyenne, l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, critiquait déjà l'intervention de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en Libye. Les pays de l'OTAN cherchent simplement à tuer Kadhafi. Ils ont délibérément tué certains de ses enfants. Quelle est la différence entre eux et Al-Qaïda ou encore Daesh ? Interrogeait alors le chef de l'État qui affirmait que l'OTAN est une organisation terroriste qui défie le droit international, qui ne veut manifestement que tuer. Un an plus tard, l'assassinat de Kadhafi, officiellement par les brigades révolutionnaires soutenues par l'OTAN, acté, donc Mugabe a décidé de continuer sa critique de l'organisation atlantiste. Le 18 septembre 2012, à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, sous les applaudissements africains, Mugabe dénonçait la destruction de la Libye et dressait un portrait au vitriol de l'OTAN devant ses propres ambassadeurs. La tendance belliciste croissante des États de l'OTAN, inspirée par la croyance arrogante qu'ils sont les plus puissants d'entre nous, et qui manifeste par le recours à l'hégémonie militaire comme en Libye, est l'antithèse même des principes fondamentaux des Nations Unies, clamait Mugabe, qui reprochait l'isolement de l'Afrique. L'Union africaine a été défiée, ignorée et humiliée. Un discours qui, près de 10 ans plus tard, trouve encore un certain écho en 2022. La Libye est toujours déchirée. 11 ans après la mort de Kadhafi, et les pays de l'OTAN blâment les pays africains qui n'ont pas soutenu donc leur condamnation de l'intervention russe en Ukraine. Mugabe avait une dent contre l'OTAN, lui qui était accusé d'être le Hitler noir par la presse britannique, qui était attaquée par les ONG occidentales pour soi-disant un régime à parti unique et qui avait été sanctionné par les pays occidentaux entre 2002 et 2017. Le Zimbabwe a souvent été qualifié du Cuba de l'Afrique en raison de l'embargo dont elle a fait l'objet durant cette période. Mugabe avait fini renversé par le général Subisiso Moyo en 2019 et le vice-président Emmerson Mnangagwa a été désigné président après la démission forcée de Mugabe. Un coup d'État que la communauté internationale a évidemment salué en mettant surtout en exergue, en l'absence de crimes contre l'humanité avérés contre le régime Mugabe, l'échec économique du président déchu. Aujourd'hui encore, les économistes assurent sans sourciller que le Zimbabwe de Mugabe avec 20 milliards de dollars de PIB avait un taux de chômage atteignant 90%. Mais c'est surtout les sorties virulentes et la politique étrangère de Mugabe qui déplaisaient aux Occidentaux et non son régime. De son vivant, le président zimbabwéen disait, lorsque l'ONU avait dénoncé la nationalisation des entreprises occidentales dans son pays, « Nous devons discriminer les pays qui nous discriminent ». Il est grand temps que le Mali sorte des organisations qui ne visent qu'à le nuire. La dernière mission donc, du médiateur de la CEDEAO avait encore échoué, du moins du point de vue des Maliens. Mais la mission obéit aux instructions du grand maître Macron et Macron ne veut visiblement pas s'arrêter là. Le silence de la communauté internationale à travers le monde est quand même pesant. Le communiqué numéro 24 du gouvernement du Mali nous avait appris que les autorités maliennes, après force aux argumentations, ont lâché du lest en abaissant progressivement leurs prétentions à 36 mois, puis à 29 mois et enfin à 24 mois. La CEDEAO a justifié son refus dans son communiqué du 20 mars par sa volonté de soutenir le Mali dans la réalisation des aspirations de son peuple à la paix, à la bonne gouvernance et au progrès. Le peuple malien la remercie pour sa magnanimité, mais n'est pas crédule pour autant. La CEDEAO a-t-elle jamais consulté le peuple malien pour connaître ses aspirations ? De quel droit s'arrogue-t-elle le pouvoir de décider en lieu et place du peuple malien ? Cependant, le grand maître Macron n'en rate pas une miette pour dénoncer un double coup d'État au Mali. D'après son argumentation, le second coup d'État ayant mis fin, donc au 1er en mai 2021, la transition aura duré 10 mois en ce mois de mars. Les 24 mois récemment proposés donc, conduiraient donc à une transition de 34 mois, soit 2 mois de moins que les 36 accordés au Burkina Faso. Nous nous réjouissons de la bonne fortune de nos frères burkinabés, tout en dénonçant vivement l'intrusion du grand maître Macron, spécialiste devant l'éternel du deux poids, deux mesures. Nous savons que les chefs de l'État, donc de la CEDEAO, dans une grande majorité, ne partagent pas cette injustice. Mais il est grand temps qu'ils s'en désolidarisent une bonne fois pour toutes. Les autorités maliennes, par leur volonté de soutenir le Mali dans la réalisation des aspirations de son peuple à la paix, à la bonne gouvernance et au progrès, ont montré leur bonne foi en baissant graduellement leur offre de 60 mois à 24 mois. La mauvaise foi est désormais maintenant dans le camp de la CEDEAO. Mais en fait, le comportement aussi flagrant de la CEDEAO cache tout de même quelque chose de bizarre dans cette affaire. En effet, continuer à alimenter le terrorisme, s'arranger pour que les liens tissés entre le Mali et ses voisins mauritaniens et algériens soient rompus d'une manière ou d'une autre, isoler entièrement le Mali pour que ce pays donc, ne devienne pas un exemple dans la région. Il est clair que les 12 mois que la CEDEAO va absolument imposer à Bamako est un laps de temps aberrant et impossible à respecter, et c'est bien le but recherché d'ailleurs. Imaginez donc que le Mali réussisse la transition, réussisse à empêcher la France d'imposer un de ses pions à la tête du pays. D'autres pays ne suivront-ils pas la même voie ? De plus, maintenant que la France a été humiliée au point d'être obligée d'user de la mauvaise foi et du déni pour couvrir donc sa défaite au Mali, ne veut absolument pas en rester là. Mais mis à part le bluff, que peut faire réellement Paris contre le Mali ? Organiser l'assassinat des dirigeants maliens, c'est déjà tenté. Isoler le Mali, c'est un échec. Renforcer le terrorisme, les FAMA et les Russes sont en train de s'en occuper. Et donc, économiquement parlant, Bamako reste obligé donc de lancer l'industrialisation du pays, le développement. Et pour ça, l'électricité est importante, mais surtout, ce qui est important, c'est de briser les blocages qui l'empêchent d'y arriver, comme par exemple le franc CFA. Les autorités maliennes y travaillent justement, et Macron veut absolument empêcher ça, car si la mèche s'allume, il ne lui sera plus possible de contenir les pays d'Afrique de l'Ouest, et surtout les populations. Si Macron est maître de la CEDEAO avec Washington, il est clair que les populations africaines sont maîtres de leur propre destin et du continent africain. Les pays doivent se souder entre eux pour prouver leur indépendance, et lorsqu'un pays, par exemple de l'Afrique de l'Est, est victime d'un régime de sanctions de Washington, comme cela avait été le cas avec le Zimbabwe, on a constaté que les pays voisins ne sont pas restés les bras croisés. En plus, ils ont dénoncé les sanctions et donc continuent à mettre la pression sur la communauté internationale pour que les sanctions soient levées. Bref, sans union, l'Afrique restera enchaînée à tout jamais au néocolonialisme. Au Mali, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que suite à une embuscade contre une patrouille en offensive vers 11h, les FAMA avaient enregistré 2 morts et 7 blessés à Boni. Après une riposte vigoureuse par les FAMA, 13 assaillants sont restés et 2 terroristes interpellés. Le camp militaire de Tessit, cercle d'Assango, a été également la cible d'une attaque hier par des hommes armés non identifiés. L'information a été confirmée par les autorités militaires et selon une source sécuritaire, les assaillants venus en grand nombre ont voulu prendre le contrôle du camp. Les FAMA sont intervenus et les terroristes ont fui. Et pour le moment, on ignore s'il y a le nombre de victimes exact. Et lors de cette attaque, les FAMA ont pour le moment enregistré 2 morts et 10 blessés. Et les FAMA ont repoussé vigoureusement l'attaque. Donc 9 morts ont été dénombrés sur place et plusieurs blessés terroristes ont été interceptés et anéantis par une intervention aérienne au cours de leur transport. Le ratissage continue à fond pour nettoyer ces secteurs. Le chef de l'état-major général des armées demande à la population de maintenir le calme et de compter sur l'engagement total des FAMA. Le village de Berimbé, donc situé dans la région de Bankass, a été également la cible d'une attaque terroriste séisme le vendredi 18 mars. Le bilan fait état de 28 personnes enlevées, le village incendié et tout le bétail emporté par ces hommes armés. Bankas, Boni, Tessi sont trois localités proches de la frontière burkinabé. Les intentions des groupes armés terroristes sont claires. Ils veulent certes déstabiliser le Mali et montrer ainsi donc l'armée malienne comme étant une armée faible et non développée, comme c'est leur habitude. Mais la cible principale reste quand même le Burkina Faso. Si les groupes armés terroristes prennent ces localités, il est clair que leur but est d'y installer leur base et organiser plus intensivement les attaques contre le voisin burkinabé. Même si Barkhane a passé son message, disant donc qu'après sa sortie du Mali, elle ne voudrait pas se redéployer dans les pays voisins du Mali, sauf si c'est eux qui en font une demande officielle. Bref, le Niger n'est peut-être pas si intéressant que cela donc pour la France, vu que ce pays est déjà une grande base militaire américaine. Reste le Burkina Faso, pays dans lequel l'idéologie du panafricaniste Thomas Sankara continue d'être le moteur de la jeunesse burkinabé. Mais le problème reste toujours le même, les Burkinabés donc ne laisseront pas Barkhane venir s'installer au Burkina Faso, ceci est clair et net. Malgré les nombreuses tentatives des Occidentaux et particulièrement de la France de vouloir nier, insulter ou dénigrer les Burkinabés, surtout ceux qui sont descendus dans les rues pour bloquer les convois militaires français en disant que si cette foule montre un sentiment d'hostilité à la France, c'est parce qu'ils sont instrumentalisés. Les propos d'ailleurs de l'ambassadeur du comptoir colonial français en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard, qu'il avait tenu des propos d'une extrême gravité à l'encontre des nombreux manifestants anti-France au Mali, au Burkina Faso et au Niger. C'était il y a un mois de cela, sur un plateau de télé ivoirien, il a déclaré « Vous savez, avec 1000 ou 2000 francs CFA, donc soit 3 euros, on peut faire beaucoup. » Il suffit parfois d'un sandwich ou d'un Coca-Cola et vous avez 2000 manifestants dans la rue, comme a-t-il déclaré. Il y a très probablement une instrumentalisation derrière ces sorties massives et le plus souvent hostiles à la politique française observée dans ces pays du Sahel. La manipulation fait partie aujourd'hui des relations internationales, comme il a soutenu. Il est clair que la France annonce déjà la couleur. L'Élysée n'hésitera donc pas à user de tous les moyens à sa disposition pour mettre le Burkina Faso à feu et à sang, pour faire en sorte que le Burkina Faso ne suive pas le même chemin que le Mali. Mais que ce soit au Mali ou au Burkina Faso, c'est la population qui trace le chemin à suivre, plus personne d'autre. À nouveau, grand meeting est prévu pour le 27 mars à la place de la Révolution à Ouagadougou en soutien au FDS-VDP, soutien à l'annulation des accords avec la France, le départ de Barkhane sans condition de toute la région et aussi un partenariat avec la Russie. Et il est clair qu'il n'y aura pas besoin de Coca-Cola et de sandwich pour faire venir les Burkinabés. Par contre, ce qui serait comique, c'est que les Burkinabés se rassemblent donc en masse avec des sandwichs à la santé de la France.
L'Ouganda et la République du Burundi tiendront du 22 au 24 mars 2022 la troisième session de la réunion de la commission permanente conjointe prévue à Bujumbura. Selon des responsables du ministère des Affaires étrangères, la réunion contribuera à renforcer davantage les excellentes relations bilatérales cordiales entre les deux Adans. Le but de revoir la coopération dans divers secteurs des consultations diplomatiques et politiques et du commerce et de l'investissement, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, le développement des transports et des infrastructures et la défense, entre autres. L'Ouganda et le Burundi entretiennent d'excellentes relations bilatérales de nature historique fondées sur les principes partagés du panafricanisme et de l'intégration régionale. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies peu de temps après l'accession à l'indépendance des deux pays et un accord général de coopération a été signé en 1986, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. En 2021, l'Afrique comptait environ 21 banques numériques servant plus de 18 millions de clients selon un rapport de BPC Banking. technologique. 80% de ces néobanques sont concentrées en Afrique du Sud et au Nigeria, alors que l'Afrique compte actuellement 21 banques numériques qui servent au total plus de 18 millions de clients. L'Afrique du Sud et le Nigeria représentent à eux seuls environ 80% de ces structures. Ces pays sont les plus développés du continent en termes d'infrastructures réseau et Internet. En 2021, le taux de pénétration du mobile était de 47% au Nigeria contre 61% en Afrique du Sud. Le taux de pénétration de l'Internet était quant à lui de 50% au Nigeria contre 64% en Afrique du Sud, selon le rapport. Ces infrastructures Internet sont essentielles pour renforcer l'accès aux services financiers en direction des personnes vivant en zone rurale et de toucher de nombreuses communautés de non bancarisées. En 2020, un colloque international tenu au Niger a conclu qu'une école doctorale dans la région du lac Tchad sera un atout pour relever les défis environnementaux et sécuritaires. 2 ans après, le Niger et le Tchad annoncent une collaboration pour concrétiser ce projet. Les ministères de l'enseignement supérieur du Niger et du Tchad ont signé le jeudi 17 mars un accord de partenariat visant à promouvoir la qualité de l'enseignement supérieur entre les deux pays. Le partenariat sera mis en œuvre par les universités de N'Djamena au Tchad et de Diffa au Niger. L'une des premières réalisations sur laquelle aboutira ce partenariat est la création d'une école doctorale sur les sujets relatifs à la paix, la sécurité, l'environnement et le développement rural. Côte d'Ivoire, le Cyber Africa Forum 2022 sous le prisme de la souveraineté numérique et de la protection des données. La souveraineté numérique et la protection des données seront débattues au Cyber Africa Forum 2022 sous le prisme du télétravail, de la finance numérique ou décentralisée et du commerce en ligne, dont le but premier est de doper la croissance économique du continent africain. Et la deuxième édition du Cyber Africa Forum CAF se tiendra à Abidjan, Côte d'Ivoire, le 9 et 10 mai 2022, sous le haut parrainage du Premier ministre ivoirien Patrick Jérôme Machi, annonce CyberOps, co-organisateur de cette plateforme d'échange sur la cybersécurité avec Jeune Afrique Media Group.